Radio Zanzine présente Back to the ZAD. Retour sur la zone d'aménagement différé ou zone à détruire du côté de Notre-Dame-des-Landes, pas loin de Nantes, lieu où doit être construit peut-être un nouvel aéroport. En septembre 2009, je me suis rendu dans les environs de Nantes, rencontrer les personnes qui s'opposent à la construction du nouvel aéroport sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Ceci avait donné lieu à une première émission réalisée en novembre 2009, intitulée « Comme un avion sans ailes ». En août 2010, je suis retourné sur cette ZAD, zone d'aménagement différé, ou zone à détruire, c'est à voir. Et j'ai de nouveau rencontré les personnes qui sont toujours là, toujours en train de résister un an après et qui s'organisent un peu plus. Ceci a donné lieu à une sorte de table ronde impromptue dans une yourte au milieu du bocage nantais. Avant d'écouter cette table ronde inopinée, je préfère reprendre le début de la première émission qui nous resitue le contexte général de cette opposition et du projet de nouvel aéroport. Donc voilà, nous écoutons tout d'abord Paul qui nous retrace l'historique.
Oui, alors le projet vient depuis 1964-66. Il en était question de créer un nouvel aéroport pour le Grand Ouest, pour faire un truc international. Et puis bon, dès 66, ils se sont mis à acheter des terrains déjà dans une zone qui était uniquement rurale, qui était pratiquement pas beaucoup urbanisé, et ils se sont mis à acheter pendant 4 ou 5 ans tous les propriétaires qui voulaient vendre. Le conseil général achetait les terrains, ils en ont acheté 700-800 hectares dans l'espace de quelques années. En général, les paysans n'étaient pas propriétaires de leurs terres, la plupart étaient locataires. Alors le propriétaire vendait sans tenir compte de leur fermier, et quelques-uns partaient en retraite quand même, qui étaient propriétaires, et bien se sont débarrassés de leur ferme parce que le conseil général leur a proposé de l'argent, et puis là ils en ont acheté dans quelques années, si tu veux, 700-800 hectares quand même sur les 2000 qu'il leur faut maintenant. Alors ils en ont encore qui ne sont pas achetés, et ça a été une première période. Le plan, ils ont fait des études, ils ont fait des recherches un peu, ce territoire. C'est arrivé que il y a eu des résistances à ce moment-là déjà, dès au départ. Les paysans n'acceptaient pas de perdre leurs terres, ce qui était surtout fermé. Et les habitants aussi se mobilisaient. Il y a eu un certain nombre de fermes qui ont déjà été occupées dès 1970, si tu veux, par des jeunes qui se sont installés contre l'avis du conseil général qui était propriétaire des terres. Et il y en a eu 2 ou 3 qui ont été installés dans des grandes fermes d'ailleurs, assez grandes, et puis qui ont continué à travailler. Certains sont encore maintenant sur le terrain et sont devenus, si tu veux, locataires du conseil général précaire, quoi. Ça veut dire qu'en tant que paysan, tu as 1 an de délai pour quitter le lieu le jour qu'ils veulent t'évincer. Et voilà. Et alors depuis, ils ont acheté des maisons, beaucoup, ils ont acheté des terres. Et ces maisons et ces terres n'ont pas été entretenues d'autres que par les habitants. Donc il y a un certain nombre d'anciens, il y a un certain nombre de gens qui ne voulaient pas rester dans la région et qui n'ont pas trop entretenu leurs maisons, comme le conseil général n'a jamais voulu aider d'un centime de la réparation des maisons, et bien certaines sont tombées en ruine 10 ans après, 15 ans après, qui n'étaient même plus habitables. Et le conseil général, à mesure que les gens partaient parce que la maison était en ruine, et bien il la démolissait, quoi. Le bulle arrivait, il emmenait la maison dans 3 camions, et puis on n'en parlait plus. Après, c'était un friche qui se développait à la place de la maison. Et ça a été jusqu'en 90, même après, parce qu'il y a eu des maisons qui ont été détruites il y a encore 5 ou 6 ans, quoi. Des maisons qui arrivaient comme ça à terme, que les gens n'étaient plus dedans. gens, mais ils n'ont pas encore, ils n'ont pas, si vous voulez, exproprié ni chassé militaris les de personnes de la région. Quoi. Pour l'instant, c'est pas, ça n'a pas été. Alors ça, c'est, il y a eu des années qu'on n'en parlait plus trop de l'aéroport.
Le Conseil général à cette époque-là, il était de quel bord?
Le Conseil général était suite à un Conseil général de notables, hein, comme maintenant. Hein. C'était un peu plus de droite et puis un peu moins de gauche. Maintenant, c'est un peu plus de gauche et puis un peu moins de droite. C'est la seule différence. Alors, ça n'a pas changé. Le projet a continué. Et puis, petit à petit, eh bien, on n'en parlait plus jusqu'en 90 ou 92. On en parlait peu. Il avait acheté des terrains, mais il les gardait en réserve. Et puis, bon, il n'y avait pas d'ennui. Il faisait des bails précaires aux paysans ou à ceux qui habitaient dans les maisons, s'ils voulaient, sans faire de réparation, rien. Et puis, c'est en 92 ou 95 que certains, je ne me rappelle plus quel ministre, quel gouvernement, a remis sur le tapis le projet de l'aéroport. Et de 95 à 2000, on en parlait mais assez vaguement, mais à partir de 2000, c'est devenu un projet pas uniquement Conseil général, c'est devenu en même temps un projet gouvernemental, quoi. Donc elle, c'est le gouvernement qui a pris le relais après 2000, quoi, sur enfin 2000-2004, quoi, qui a pris le projet pour le réaliser, quoi.
Et une question naïve, quel serait l'intérêt pour Nantes d'avoir un nouvel aéroport?
Ben, l'intérêt, c'est moi, il me semble, hein, on en reparlera tout à l'heure, mais il me semble que le gros intérêt, c'est que bon, Jean-Marc Ayrault, le Conseil général, qui sont des gens de gauche aujourd'hui, veulent laisser quand même, si vous voulez, une réalisation de grandeur nationale et tout, et puis ils veulent faire cet aéroport pour qu'il concurrence ou pas concurrence, mais arrive à faire une grande boutique, quoi, si vous voulez, au niveau de l'Ouest, qui concurrence, pas concurrence, mais qui fait un peu qui fait le même que les trucs nationaux d'Orly ou de machin. C'est un peu leur projet, c'est de faire des grandes choses. Et deuxièmement, je crois qu'ils veulent aussi évincer l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pas uniquement, ils se servent de ça, mais pas uniquement parce que c'est dangereux pour la ville de Nantes, mais c'est surtout pour l'impact foncier que ça fait. Rezé, Bouguenais et Nantes même sont construits tout près de l'aéroport. Aujourd'hui, c'est interdit de construire tout près de l'aéroport et il espère que dans quelques années, il va y avoir plusieurs milliers d'hectares qui vont passer constructibles, qui sont aujourd'hui gelés. Et l'avantage de l'administration, je crois, c'est des promoteurs et puis des élus, c'est de faire une zone urbanisée au sud de Nantes, à la place de l'aéroport ou une partie de l'aéroport toujours tout de suite, de faire des lotissements et le terrain prendrait, si tu veux, 100 fois, 200 fois la valeur qu'il a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas l'utiliser. Et ils ont acheté du terrain à Notre-Dame-des-Landes qui valait le prix agricole, qui valait, si vous voulez, le prix d'un hectare à Notre-Dame-des-Landes, peut-être. Ils l'ont acheté le prix de 1 mètre carré peut-être à Rezé maintenant. Ça veut dire que le pognon, ils vont se faire du chou gras là-dedans comme ils vont vouloir, quoi. Et il y a aussi bien la mairie de Nantes, la mairie de Rezé et tout ça qui sont complices avec les promoteurs pour pouvoir rendre quelques milliers d'hectares là à l'urbanisation qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas parce que l'aéroport est là. Et je crois que c'est certainement un enjeu important économique pour eux de pognon, quoi. Et ça, ça compte, c'est prioritaire avec... Voilà, moi là-dessus, on n'en parle pas beaucoup de cette spéculation. Il y a peu de gens qui abordent ce problème de ce côté-là, mais je crois que c'est une logique. C'est comme on voit toutes les communes, Couëron ou n'importe Saint-Herblain, eh bien, leur cimetière qui était au centre-ville, eh bien, ils l'ont déplacé en campagne où ils ont acheté des terrains qui valaient rien, et puis le cimetière, ils le vendent pour faire des lotissements à des prix 100 fois, 1000 fois supérieurs, quoi. Et ça, toutes les villes, les terrains de sport, c'est pareil. Ils les font en dehors des villes maintenant pour libérer les terrains qui sont au centre-ville pour faire des lotissements auxquels le terrain, il y a les équipements publics et tout, les promoteurs, là, ils sont de... Et dans toutes les communes, c'est un peu ça maintenant. Avec l'aéroport, c'est le même principe. C'est la spéculation qui, surtout, est très forte pour pousser les projets à s'en aller en campagne plutôt que pour utiliser ces terrains à la spéculation.
Voilà, on est avec Rodi, Sri, Lucie, Alain et Vidi de Nantes. je t'ai passé il y a de ça à peu près. Je t'ai passé il y a à peu près un an. On avait déjà fait une émission sur la lutte contre l'aéroport. Et c'était peu de temps après le camp Action Climat et l'appel à occupation qui avait été lancé. On avait fait tout le côté d'historique, on ne va pas se retaper maintenant, mais c'est plus en gros depuis cet appel à occupation, depuis le camp Action Climat, un an après, on en est où quoi?
On est toujours là. toujours motivé, toujours déterminé. On attend. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu quand même dans une phase d'attente où pour l'instant, on sent pas forcément le conflit au quotidien parce qu'il n'y a pas une présence policière sur le terrain. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression d'être dans une situation d'attente, de voir comment ça va se passer, quand est-ce qu'il y aura des éléments déclencheurs ou des trucs comme ça.
Je pense après il y a un grand travail administratif dans les bureaux qui s'est joué, au sens où il y a eu le choix du concessionnaire de l'aéroport, du coup qui récupère la concession de l'aéroport qui est actuellement sur Nantes pour les voyageurs, ainsi que la piste qui est proche de Saint-Nazaire à Montoire pour le fret. Donc ça, du coup, il va récupérer là dans les mois qui viennent le travail de gestion de ces deux pistes-là et la construction de l'aéroport pour une durée de, je ne sais plus combien de temps, 50 ans.
55 ans.
55 ans, et du coup, on sait maintenant que c'est la grande boîte Vinci qui a pris le contrat. Ça fait quand même une avancée là dans...
Ça, c'était le 30 juillet.
Dans ce qui se passe, c'était, ouais.
Annoncé le 30 juillet.
Annoncé le 30 juillet. Du coup, ils ont fait un très beau communiqué de presse où ils vendent de construire le premier aéroport à énergie positive du monde. Non, c'est assez particulier, quoi. Mais après, du coup, le travail, ça avance pas mal plus dans les bureaux que sur le terrain pour l'instant, quoi.
Là, on est au sein de la ZAD, zone à développer officiellement.
Non, c'est de l'aménagement différé.
Ah,
qui risque de différer un peu longtemps.
En tous les cas, moi, par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup plus de gens.
Et là, justement, j'ai envie de répondre à ta question de départ. C'en est où depuis, là, depuis la dernière fois qu'on avait fait une émission ensemble? Et ben, c'est vrai qu'il y a eu un appel qui avait été lancé pendant le camp Action Climat. Venez vivre ici, venez vivre sur la ZAD, venez essayer de lutter avec nous contre ce projet d'aéroport. Et du coup, il y a des gens, des personnes qui ont répondu à cet appel et qui ont décidé de venir vivre ici. Et ça a enclenché un processus d'occupation parce qu'il y avait des lieux inhabités, des maisons vides qui appartenaient soit au Conseil Général ou soit à la DGAC, qui est l'aviation civile. Et comme ces maisons étaient vides, donc il était nécessaire de les occuper. C'est une tactique, quoi, d'occuper ces lieux pour qu'ils soient défendus et qu'ils soient pas détruits. Parce que la logique de l'aéroport, d'un projet d'aéroport, c'est de faire le vide pour pouvoir faire décoller des avions. Donc les maisons sont nuisibles dans ce type de projet. Et nous, le but, c'était qu'il y ait un maximum de gens qui puissent s'installer pour dans ces maisons-là. Et du coup, en un an, là, on a vu qu'il y a une vie qui a commencé à s'organiser entre les différentes personnes des différents lieux. Et c'est ça qui est encourageant, quoi. Il y a des choses qui se passent petit à petit, ça prend son temps, ça se construit peu à peu. Et en tout cas, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quoi.
Non, mais je pense que l'année dernière, il y avait comme deux lieux occupés, il me semble, ou trois. Et là, on est à 13. Enfin, le printemps, ça a été une grosse vague d'installation. Il y a encore du monde qui veut venir dans le coin. Après, il faut trouver la place pour aussi, parce que je pense que toutes les maisons sont occupées sur la ZAD, il n'y a rien qui est vide. Et voilà. Et courant juillet, au 15 juillet, on était un peu plus sur une dynamique de... Ouais, un peu de construire un genre de village autogéré ou je ne sais quoi, enfin s'occuper pas mal de nos jardins, de culture collective, on a fait un champ de patates, des trucs comme ça. Et du coup, il y a un huissier qui est passé dans 5 maisons ou terrains pour donner une sommation à dégager avant le 30 juillet. Ils sont repassés prendre les noms et du coup, ça a donné un peu un coup que sûrement 5 lieux allaient se faire expulser, bah, peut-être rapidement, et on n'a toujours pas de date de procès. Mais en tout cas, c'est possible qu'ils essaient, ou fort probable même qu'ils essayent de virer des maisons ici, enfin, ou des lieux, d'ici peu de temps. En tout cas, avant d'autres gens qui ont les beaux, ou des paysans qui ont des beaux aussi, des beaux précaires. Donc,
voilà. Alors ça ça a aussi amené à pas mal de choses, ce fait d'avoir des menaces de procédure juridique sur différents espaces, parce qu'il y a eu un appel à l'Assemblée Générale qui a été lancé sur Nantes, dans tous les bourgs autour. Et plutôt, ça a assez bien marché. La première AG, il y avait 80 personnes. La suivante aussi, il y avait un peu moins de monde à la dernière. Mais du coup, il y a des AG régulièrement, tous les 15 jours. Et ça fait aussi un mouvement de s'organiser avec d'autres gens strictement que des gens qui habiteraient sur la ZAD. Et il y a des personnes qui viennent autant de Sud-Loire, parce que bon, pour vous qui habitez loin, là on est au nord de la Loire, et du coup ça fait des personnes qui viennent d'un rayon d'une bonne cinquantaine de kilomètres tout autour, en fait, aux différentes AG. Et il y a eu la volonté pour plein de monde de créer des comités locaux, quoi, ça s'appelle des comités locaux, dans les différents bourgs et dans les différentes zones, et qui se coordonnent au moment des AG. Et ça permet qu'il y ait beaucoup plus de structures d'organisation, et chaque comité est autonome les uns vis-à-vis des autres, et s'organise comme il veut. Et du coup, ça s'organise un peu dans différents petits endroits, à pas mal d'endroits, quoi.
Il y a combien de comités locaux ?
Là, on est à 14.
Non, on a 14 lieux où des gens aimeraient créer des comités locaux, ouais. Sauf que je pense qu'effectivement, il n'y a pas ça qui existe. En fait. Que c'est une volonté pour l'instant.
Voilà, mais en tout cas, il y a cette dynamique-là de se connecter, de permettre aux gens de venir dans ces comités locaux pour s'organiser, et puis pour se tenir informer les autres, et puis se tenir prêt en cas d'expulsion aussi, parce que s'il y a cette réalité-là qui nous pend au nez, s'il y a une décision de justice qui est prise, et donc à un moment donné, il faudra bien s'organiser, et les comités locaux seront sûrement utiles de ce point de vue-là, quoi. Mm-hmm.
Et justement, sur ce côté d'expulsion ou par rapport aux occupations, l'axe de défense, c'est en gros une défense physique des lieux, ou est-ce que ça va jouer aussi sur un aspect de défense juridique, d'essayer d'une certaine manière avoir soit une légalisation, même si ça paraît un peu complètement irréaliste, ou en tous les cas plus de délais, ou et du coup de rentrer dans le grand cirque juridique.
On n'a pas encore vraiment abouti une décision claire là-dessus. Sachant qu'on cherche à prendre cette décision-là pour par l'ensemble des gens qu'il y a sur la ZAD dans les maisons occupées, et pas uniquement les maisons qui sont concernées par le truc d'huissier aussi. Mais de toute façon, en fait, il y a peu de chances, où le juridique il nous aidera pas là-dedans, quoi, évidemment. Enfin, c'est des situations de squat sur une zone qui est réservée à un aéroport, c'est mort, et puis c'est pas comme si la justice, on y croyait à fond, ou si on trouvait ça super intéressant. Et après, c'est clair que choisir de se mettre dans une dynamique d'occupation à ce moment-là du projet, c'est de voir l'enjeu qu'il y a, qu'eux, ils ont un enjeu à vider la zone, il faudra bien qu'ils vident cette zone, il y a 150 personnes qui habitent dessus, ou je sais pas, quelque chose, une quarantaine de... Je sais pas exactement les chiffres.
Il y a beaucoup
c'est
de gens.
C'est un habitat dispersé, mais il y a quand même pas mal de monde à virer... Il y a les maisons qui sont louées avec des baux précaires où il y a 2 mois de délai de résiliation. Enfin, à partir du moment où le bail est rompu, il y a 2 mois. Pour les paysans, c'est 1 an. Et que du coup, il va sûrement y avoir plusieurs vagues d'expulsion, et juste de ne pas laisser faire ça, en fait, et de se battre contre ça. Que sûrement, peut-être s'ils le veulent vraiment, ils vont y arriver, mais qu'en tout cas, ça leur coûte cher. Et en tout cas, moi, je pense qu'il y a clairement un truc de ne pas lâcher la zone, en fait. Ce truc, on va le garder et se battre pour le garder.
Au niveau juridique, on avait quand même un début de consensus pour dire qu'on voulait pas faire une défense misérabiliste, parce que la culture qu'on a autour de Nantes sur les squats, d'habitude, c'est plus quand même de d'utiliser la justice pour essayer de grappiller quelques mois de délai, et en général on fait ça plus avec des défenses un peu misérabilistes, de dire bah voilà, on est dans la merde, on essaye de se réinsérer, on n'a pas d'autre endroit pour habiter, s'il vous plaît monsieur le juge, laissez-nous un peu de délai. Donc c'est des trucs qui marchent un peu pour les squats à Nantes, qui nous permettent d'avoir quelques mois de délai en plus. C'est un truc qu'on voulait ne pas faire ici en fait, parce que l'idée qu'on avait, c'était pas juste de gagner 2 ou 3 mois pour être 2 ou 3 mois au chaud un peu plus longtemps et puis avoir moins de soucis matériels, mais c'est vraiment d'en faire un enjeu politique en fait, de tenir le terrain. Et du coup, plutôt, on a écarté cette piste-là, quoi.
Et je crois qu'on va même un peu plus loin dans la réflexion. En tout cas, on en discute à quelques-uns des fois. C'est sur le terme de squat, quoi, parce que on est plus dans une logique d'occupation. On se nomme aussi nous-mêmes les nouveaux habitants, les nouveaux arrivants de la ZAD, et que on a ce truc de dire voilà, on vit ici, on est des habitants à part entière. On doit être reconnu comme des habitants à part entière, et que c'est vrai que dans les AG et tout ça, on essaie d'évacuer ce terme de squat, parce que il y a toujours des personnes qui ça renvoie des images négatives, péjoratives. En tout cas, il y a toute une imagerie derrière qui est véhiculée, et donc on se dit que voilà, on est avant tout des habitants, hein, on est comme si on était des nouveaux sur la commune. Mais en tout cas, on a cette volonté de combattre cet aéroport, de ce projet d'aéroport, et c'est là-dessus qu'il faut se rejoindre, quoi. Et non pas essayer de partir avec des mots, des terminologies qui pourraient pas être comprises par tout le monde, quoi.
Moi, je pense, ouais, effectivement, on avait discuté du mot squatter, de dire que peut-être on voulait pas le voir apparaître trop souvent dans les tracts qu'on écrit. Hein. Mais enfin moi je pense à titre individuel, je continue à me dire squatter en fait, enfin, ou même quand je parle avec des gens qui habitent sur la ZAD depuis plus longtemps, moi ça me gêne pas de dire en fait il y a les gens qui sont en bail précaire et puis il y a les squatters ou des choses comme ça. Et je crois la réflexion qu'on avait eue, c'était plus sur les tracts qu'on essaye de diffuser en fait dans le coin, de plutôt privilégier peut-être le terme occupation des fois, ou juste nouveau arrivant, nouvelle arrivante.
Retournons sous la yourte avec Rodi, Sri, Alain et Lydie, discuter de cette situation dans la zone d'aménagement différé dans le bocage nantais.
Je me souviens aussi que l'année dernière, il y avait des relations, comment dirais-je, divers et variés avec la CIPA, qui est l'association citoyenne, je sais pas.
Ouais, des habitants concernés par l'aéroport, des habitants intercommunaux.
Qui est donc et la DECA, l'association de défense des exploitations concernées par l'aéroport. Et,
c'est les agriculteurs. Hein.
Ça, c'est les agriculteurs. Et que c'était pas forcément ultra facile en termes de lien avec, avec ces assos, parce qu'il y avait des différences de vision tactique ou stratégique, en particulier l'appel aux élus, d'essayer de, voilà, de faire en sorte que l'opposition à l'aéroport vienne par en haut et non pas de la base. Et ça, là, on en est où dans cette grande histoire d'amour?
Je sais pas, en tout cas, leur truc sur les élus, ça a bien marché. Ils doivent bien avoir quelques centaines d'élus.
600
1000.
Ah,
ils sont à 1000.
1000 à ma gauche. 1000 à ma gauche.
Ils doutent de la pertinence du projet d'aéroport. Alors, avec un doute sur la pertinence, je pense qu'on va pas aller loin. Ah. Mais
bon. Bah, moi, je dirais, ouais, c'est une histoire d'amour avec la CIPA parce que. Il y a plein de moments où on arrive pas du tout à s'entendre, qu'on est vraiment sur des logiques de lutte différentes et des choses comme ça. Mais je pense que finalement, moi en tout cas, je suis content quand même d'être là avec la CIPA parce que ça nous décloisonne un peu. Enfin, je trouve ça agréable aussi de pas être cantonné dans un milieu où on est que avec des camarades, que avec des gens qui ont un seul mode d'action et des choses comme ça, et que là on puisse être en lien avec d'autres groupes qui ont d'autres stratégies ou d'autres façons de faire, et ben même si c'est assez désagréable et que sur beaucoup de points on a vraiment du mal à se comprendre et à trouver des terrains d'accord, je crois que quelque part il y a un côté que j'aime bien en fait dans cette rencontre entre différents groupes et différents modes d'action en fait.
Même si non quand même moi je suis pas tout à fait d'accord. c'est souvent poignard dans le dos quand même leur histoire. Enfin, parce que cette histoire d'aéroport là, c'est pas uniquement un aéroport, c'est par exemple sur juste la zone là, c'est un aéroport plus une autoroute qui relie deux autoroutes déjà existantes. Enfin, elle se trouve entre l'autoroute Nantes-Saint-Nazaire et l'autoroute Nantes-Rennes. Et ce barreau routier va servir à la desserte de l'aéroport et aussi sûrement à le construire parce qu'avec les petites routes qu'il y a dans le coin, ils peuvent pas vraiment faire passer leurs machines dessus. Voilà, du coup, c'est des projets qui sont hyper liés, quoi, et en ce moment, plutôt la DECA, le groupe des paysans, là, enfin des paysans, des exploitants agricoles, ils négocient là-dessus, en fait. Enfin, quand ils ont fait, eux, tous les ans, ils font un grand pique-nique populaire, et là, et avec des prises de parole, quand ils ont pris la parole, c'était pour dire, ah, mais on négocie pour le barreau routier des voies sur le côté pour pouvoir passer les tracteurs, et des voies en dessous pour pouvoir passer d'un côté à l'autre, parce que quand même, il faut que les agriculteurs puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions. Du coup, ils négocient pour avoir un passage sur l'autoroute uniquement. Et ça s'appelle poignard dans le dos parce que nous, c'est ni barreau ni aéroport de toute façon. Et je dirais ni toutes les infrastructures routières ou autres qui sont en train de mettre en place dans le coin, parce que ça va aussi avec l'élargissement de l'autoroute qui va à Saint-Nazaire, comme un espèce de périph super éloigné de Nantes, enfin 30 km de Nantes, mais qui passera 10 km d'ici au nord. Et voilà.
Ben en fait, même le barreau routier, il s'inscrit complètement dans la création du nouveau périphérique nantais. En fait, c'est juste un fragment entre deux autoroutes qui sont en train de construire, en sachant qu'ils en ont déjà fait des petits morceaux au sud, et à chaque fois, en fait, ils font des jonctions d'autoroute à autoroute pour fluidifier la circulation, pour plein de choses, dans une certaine discrétion, au sens où ils annoncent pas que c'est le nouveau périphérique nantais, mais il y a, je pense, 8 mois environ, ils ont fait les demandes de pont pour traverser la Loire au nord et au sud. Et ils sont clairement dans les axes de ce barreau routier et en plus du passage en 2x3 voies de l'autoroute entre Nantes et Saint-Nazaire, et c'est aussi le projet de tram-train ou train ultra régulier qui irait de Nantes à l'aéroport ou pas loin de l'aéroport. C'est pas encore tout à fait clair parce que différentes communes se battent le terminal, en sachant que le terminus, En sachant que avec ce projet, il y a Rennes qui est concerné par le projet d'aéroport, au sens où ils financent une partie là, où ils sont dans ce projet là. Et eux, ils veulent aussi une jonction rapide avec l'aéroport. Donc du coup, ça fait tout un système de desserte sur le triangle Rennes-Nantes-Saint-Nazaire, quoi. Mmh. Et ça s'inscrit assez fort dans le projet de créer une métropole qui irait du début de Nantes métropole, du coup de Thouars-sur-Loire, jusqu'à la fin de Saint-Nazaire, qui serait la jonction avec la Baule. Et ça fait 100 km de large sur environ 100 km de long sur environ 50 km de large. Et le projet, c'est de faire qu'une seule grande métropole là-dedans et de créer des systèmes de transport dans tous les sens, quoi, et qui où il y ait des moyens de déplacement entre tous les villages et tous les villages qui sont en train de devenir des cités dortoirs au fur et à mesure.
Ouais, avec j'imagine aussi ces histoires de zonage comme on peut voir dans différents endroits, avec là ce sera plus de la production, là ce sera plus du tourisme, là ce sera plus les services.
C'est assez clair, ouais. Et moi je suis passé à une exposition où il y avait les plans, le schéma de cohérence territoriale, qui s'appelle un SCOT. Et il y a clairement les différentes forêts qui vont être conservées comme zones vertes. Alors dans les grandes zones vertes, il y a l'Erdre, qui est une rivière qui va se jeter dans la Loire après différents tunnels. Il y a la forêt du Gavre et il y a une forêt au sud de la Loire. Alors pour tout ça, ils sont en train de réfléchir à agrandir les lignes de tram pour que ça aille aux bons endroits, de faire des nouveaux bus. Et alors tout ça, pour l'instant, ça reste dans un cercle assez... je dirais privé, c'est pas rendu public dans les journaux de la métropole et tout ça là, mais ça existe sur les plans. Et clairement, les autoroutes Nantes-Saint-Nazaire, Nantes-Rennes, le projet c'est de l'entreprise sur toute la longueur pour qu'ils puissent avoir des moyens de transport rapides, avec des nouvelles dessertes entre l'autoroute Nantes-Saint-Nazaire et les différentes zones portuaires, parce que pour l'instant c'est un peu le bordel, ça reste relativement des petites routes qui vont desservir la zone portuaire autour de Saint-Nazaire. Ça comprend l'agrandissement du port de Saint-Nazaire vers l'est, parce que vers l'ouest, c'est pas possible. Et vu que c'est la Baule, on s'en dit, c'est pas une bonne idée, les terminaux pétroliers, tout ça, à la Baule.
Pour le casino de la Baule, ça va pas.
Ça passe pas bien avec. Mais du coup, ouais, c'est tout ça, c'est déjà, ça paraît pas mal réfléchi sur moi, les gens que j'ai vu parler, là, ils se vantaient de réfléchir les choses sur 30 ans, tout en disant ça va pas être exactement comme ça. Et en même temps, il disait, parce qu'on a ce qui a été réfléchi par nos prédécesseurs il y a 30 ans, ça ressemble relativement à ce qu'il y a maintenant. Ils assumaient un espèce de double truc là dans leur conférence, un double mouvement, quoi, assez bizarre, quoi.
Moi, je sais pas exactement ce qu'ils préparent, mais ils doivent préparer un sacré truc pour construire, parce que là, en fait, les projets qu'il y a, c'est tout des projets de communication, enfin, ou d'infrastructures de transport, en fait. Et on fait pas ça, on transforme pas un sentier dans le bocage en autoroute pour rien, et on pose pas un aéroport au milieu de nulle part, dans une zone un peu vide, enfin en tout cas entièrement rurale, pour rien. Et ça veut dire que moi je sais pas exactement ce qu'ils vont poser autour de tout ça, sûrement des hôtels, une paire d'entreprises, on ne sait pas, mais c'est clairement un espèce de projet de développement urbanistique de toute la zone.
Et avec le truc où c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'est prévu pour être le troisième aéroport Paris. Parce que vous savez que vous êtes dans la banlieue parisienne quand même.
On a 2h15 en train de Nantes.
En voiture dans les embouteillages à Paris, tu prends largement ce temps-là. Et puis, 5 km.
Le nouveau TGV dans moins de 15 ans, ça ramène Nantes à moins d'une heure et demie de Paris, quoi. Mm-hmm. Avec le nouveau TGV en liaison directe, avec le TGV 380 km/h. La 380 qui peut se poser sur une piste, parce que quand même... Avec les entreprises d'aviation qu'il y a dans le coin, il n'y a quand même pas de piste qui peuvent accueillir la 380, ce qui est quand même un peu la boulette dans le coin. Et dans les derniers grands projets dont j'ai entendu parler à Nantes, c'est qu'ils veulent aussi construire un alignement de trois immenses tours, qui seraient les plus grandes de Nantes, plus grandes que la tour de Bretagne, qui seraient en alignement les trois, dont une sur le sud-Loire à Rezé et deux sur l'île Beaulieu. Alors c'est en plein milieu du couloir aérien, et paraît c'est dangereux les avions qui frôlent les tours.
Il paraît. Tu vois pas de quoi tu veux parler.
Ah ben, il paraît, les avions ils sont à 60 et quelques mètres à ce niveau-là, et les tours à peu près pareil. Alors pareil, ça peut se raccrocher et qu'après ça fait des dégâts, quoi. On n'est pas sûr.
Mais pour revenir aux amours qu'on pourrait avoir avec des associations comme la CIPA ou la DECA, ou en tout cas la coordination des associations qui luttent contre l'aéroport, parce qu'il y a quand même une trentaine d'associations et organisations politiques qui luttent contre l'aéroport, il y a un décalage politique, un décalage de langage, de parole et de volonté politique. Par exemple, dans le fond, quand on lutte contre un aéroport, on lutte aussi contre ce qui nourrit ça, c'est-à-dire le capitalisme. Grosso merdo, c'est à peu près ça, quoi. Et les propositions qui sont faites par ces associations, par exemple, c'est juste proposer une piste perpendiculaire à l'aéroport déjà existant de Nantes Atlantique. Mais dans le fond, ça ne change pas le problème. On aura toujours des avions, toujours des passagers, toujours un système qui est en marche et qui fait du profit, quoi, sur le dos de beaucoup de gens et qui broie une catégorie de personnes, quoi. Et nous, du coup, on a envie de porter une autre parole et à se dire que cette zone-là, on peut la vivre autrement, on peut la partager autrement, on peut la rêver autrement. Et dans la logique là qui est en cours de vouloir faire le vide, de vouloir faire les expulsions, on a écrit un courrier aux associations et organisations qui font partie de la coordination, leur demandant leur positionnement, ne serait-ce que déjà comment vous vous situez par rapport à ces expulsions, quoi. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on a reçu qu'une réponse ferme d'une association qui s'appelle Nature Action, et qui dit nous soutenir dans ces futures expulsions, et en tout cas ils seront là pour nous soutenir s'il y a des procès ou physiquement, en tout cas ils seront là, quoi. Et pour l'instant on attend un peu des nouvelles des autres associations. Donc là on est peut-être dans une période de vacances où tout le monde n'est pas revenu, qu'il n'y a pas eu de décision de prise collectivement, quoi, dans leurs différentes orgas. Mais il y a aussi une lettre qui a été envoyée au maire des communes de Vigneux de Bretagne et de la commune de Notre-Dame-des-Landes, et pour leur demander aussi leur positionnement, parce qu'aujourd'hui la commune de Notre-Dame-des-Landes, en ce qui concerne les habitations qui sont occupées, avec le conseil municipal, eux ont acté sur un arrêté anti-démolition. Et nous, on leur envoie une demande, en tout cas, de créer, de faire un arrêté anti-expulsion, même si on sait que le préfet peut passer outre ces arrêtés. Mmh. Mais en tout cas, il y a une symbolique, un truc fort qui dit, voilà, nous, on s'engage contre ces expulsions, on est avec les gens qui occupent, les squatteurs qui occupent la ZAD. Et donc, de là est née aussi, en AG, une pétition aussi, qu'on fait tourner, qu'on fait signer, contre les expulsions, contre l'aéroport, contre la politique du vide, quoi. Et ça, donc du coup, aujourd'hui, on attend un peu des retours de ça, et savoir comment ça réagit dans ces différentes structures associatives ou organisationnelles, quoi.
Après, le truc, là où on en est, eux, ils ont la CIPA, la DECA, ils ont suivi une stratégie de faire pas mal des recours juridiques, du lobbying auprès des élus, inciter les gens à voter contre l'aéroport, énormément d'informations. Depuis 10 ans, je pense qu'ils font des soirées informations régulièrement dans les bourgs du coin. Et je pense que c'est un truc qu'a porté, clairement, en fait, où très majoritairement, les gens ici, ils sont opposés. Et après, c'est un petit groupe de personnes qui se réunit, et une flopée d'adhérents, comme 3000 adhérents, quelque chose comme ça, et c'est pas du tout... Il n'y a pas du tout un truc d'inciter les gens à s'organiser par eux-mêmes ou à prendre une prise sur cette lutte autrement que d'aller voter, en fait, et de venir une fois par an au pique-nique, en fait. Eux, ils prennent les décisions et ils font entre eux, là, je pense, pas mal de travail technique, hein, tout ce qui est juridique et tout qu'ils ont fait. Et tu sens, en fait, dans leur soirée d'info, ils ont fait une soirée d'info l'an dernier en pleine période de forage où il y avait des forages géotechniques sur le tracé du barreau routier, et où il y avait des mobilisations, ou des gens qui essayaient d'empêcher ça, ou de signifier un désaccord, plusieurs stratégies aussi. Et ils font uniquement l'information sur l'aéroport, ils parlent pas des forages, et il y a des gens dans la salle qui disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait pour les forages, machin ?» Et il n'y a rien, comme proposition, il n'y a rien... Enfin, comme ils gardent vraiment le truc entre leurs mains, ils cherchent pas du tout à ce que les gens s'organisent, en fait, ou avoir des assemblées, ou des groupes qui peuvent réfléchir, ou... Bon, après, les gens pourraient aussi bien le faire en dehors de ça, hein, mais ça se fait pas non plus. Enfin, je pense qu'il y a aussi un truc localement, là, de l'aéroport, il se fera pas de, comme si les gens autour, là, ils sentent pas que ça leur appartient, en fait, que cet aéroport se fasse ou pas, en fait. Que c'est, en fait, c'est entre nos mains. Et genre, au pique-nique, pour en revenir au pique-nique, là, quand la CIPA prend la parole, c'est pour dire, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Dès qu'il y a une faille, on s'engouffre dedans et on vous remercie de votre soutien. Et de bon, toute sauf façon, que là, des failles, il y en a de moins en moins, en fait. Le concessionnaire, il a été choisi, la thune, elle est là, il n'y a pas grand monde qui y croyait dans le coin que la thune, elle allait venir hein, pour un truc aussi absurde que ça. Et avec un truc, voilà, un projet qui somme tout assez démesuré et qui demandait un paquet de thunes. Sauf que là, la thune est là, le concessionnaire est là, et à un moment, ben, ils arrivent au bout de leur truc, ou à un moment, faut mettre la main à la patte concrètement ou directement, là, sinon, juste, ça va se faire.
Mais pendant longtemps, la CIPA, elle avait un discours très rassurant, très optimiste, en disant de toute façon, vous inquiétez pas, l'aéroport, il pourra pas avoir lieu parce qu'il n'y aura pas les budgets, en fait. Et du coup, ça fait un truc où ça incite pas forcément les gens à se mobiliser aussi parce qu'ils savent que de toute façon, il n'y aura pas d'aéroport, donc c'est bon, il n'y a pas de problème, quoi. Et après, sur les arguments qui sont développés par la CIPA, moi j'ai le sentiment que ça creusait pas politiquement, en fait. Il n'y avait pas forcément d'arguments politiques. L'argumentaire contre l'aéroport, c'est argument 1, il y a des paysans et des gens qui sont sur cette zone et vraiment c'est pas gentil de les expulser parce que après ils auront pas d'autre endroit où aller. Et argument 2, il y a des jolis arbres, il y a une belle nature, il faut la préserver. Et puis à la limite un truc plus global sur l'effet de serre, que si on met des avions ça fait des dommages climatiques ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de liens qui sont faits avec une organisation globale de la société où quelques personnes décident pour tous, où c'est le capitalisme qui prime, ou qu'il faut nourrir le capitalisme en ayant sans arrêt des nouveaux projets de développement, urbaniser beaucoup plus, pas parce que c'est utile, mais parce que parce qu'il faut nourrir la machine, quoi. Il faut créer des emplois, il faut que les choses bougent, quoi. Il faut qu'un espace qui n'est pas rentable du tout, comme ici, qui rapporte de sous à personne, il faut que ça devienne un espace rentable. Et ça, on n'entend pas de critique de tout ce système-là, en fait.
Leur gros argument aussi, c'est l'aéroport, il est inutile et nuisible. Ouais, mais moi, écoute, je trouve pas assez inutile, en fait. Il est pas inutile, sinon le projet serait pas là, en fait. Ça gomme une question d'intérêt de dire ça. Pour moi, il est très utile à certaines personnes, c'est sûr.
continuons notre discussion avec Rodi, Sri, Alain et Lydie sur la construction ou la volonté de construction du nouvel aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes.
Après, je pense quelque chose qui s'est joué, parce que c'est un projet qui est né il y a 40 ans, ce projet de construire un aéroport. Et je pense que dans les choses qui ont particulièrement changé dans cette zone en 40 ans, c'est la population locale, parce qu'il y a énormément de population qui habite dans les bourgs autour. C'est des Nantais qui travaillent à Nantes et qu'ont une attache faible au territoire, en fait. Et que ça, je pense, dans le jeu qu'ont joué les politiciens à travers ce truc d'imposer ce projet, eh ben, de faire venir des gens sur la zone qui sont pas de ce territoire et qui n'ont pas un rapport intime à ce territoire et qu'habiter ici ou habiter à 30 km en bord de Loire ou en sud Loire ou à l'est de Nantes ou n'importe où, fondamentalement, ça leur change pas grand chose, en fait. Et du coup, ils sont pas non plus, ils ont pas, je pense, il y a un truc beaucoup moins fort dans un truc de par rapport au projet, où il y a des gens qui sont déjà en train de revendre à Notre-Dame pour acheter à la Paclet, ce qui est exactement de l'autre côté de l'aéroport, en fait, hein, de l'autre côté des pistes, parce qu'il y aura moins de nuisances de ce côté-là. Et en fait, après, fondamentalement, ça fait pas forcément un plus gros problème que ça, quoi. Et je pense, il y a tout un jeu qui est en train de se jouer là-dessus, où la problématique, elle est la même à Nantes dans ce truc de récupération des quartiers, elle est la même sur tout l'estuaire, en fait, parce que les populations, elles se retrouvent là pour avoir un habitat plus tranquille que d'être en ville, mais alors que c'est soit là ou autre part, ça change rien. La nouvelle zone économique qui est en train de se créer dans toute cette zone, eh ben, c'est pareil, les gens, ils viennent bosser là parce que leur entreprise, elle vient là, ou parce qu'ils peuvent trouver du boulot là, mais on leur offrirait du boulot, j'en sais rien, moi, à côté de Noirmoutier, ils iraient à côté de Noirmoutier, parce que, fondamentalement, ça leur change rien, en fait. C'est pas une question liée au territoire et à l'espace, en fait, qui font que les gens, ils habitent dans le coin ou pour plein de monde, quoi. Et que ça, je pense, c'est une modification qui a vraiment beaucoup joué dans les 40 dernières années, et qui joue aussi beaucoup sur comment les gens, à l'heure d'aujourd'hui, ils se trouvent inquiétés par ce projet ou ils trouvent ce projet gênant, en fait. Et puis, en vrai, fondamentalement, toutes les populations qui sont en train d'être attirées à Nantes à travers toutes les questions de ville écologique, de développement durable, d'économie et tout ça, et c'est pas n'importe quelle population. Et toutes les entreprises qui sont développées, c'est principalement des entreprises de nouvelles technologies et autres trucs comme ça, là, qui font qu'en fait, c'est des gens qui ont besoin des putains d'avions, quoi. Et qu'il y a un espèce de double jeu qui joue, là, de ramener des populations qui sont pour, ou qui ont besoin de ça, en fait, qui utilisent des avions pour aller en vacances, qui utilisent, c'est sûr, c'est pas les paysans de la ZAD, je sais pas combien il y en a qui ont pris l'avion dans leur vie, à mon avis, c'est comme moi, quoi. Ils sont jamais montés dans un avion, en fait. Et du coup, forcément, ils n'ont pas le même rapport que des gens qui prennent l'avion tous les étés pour aller passer leurs vacances, je sais pas où, quoi. Du coup, c'est pas, je pense que ça joue assez des choses localement, là, tout ça.
Après, ouais, c'est sûr, une partie de la population dans le coin, c'est des gens de Nantes qui viennent se prendre un pavillon ici, et en même temps, il n'y a pas que ça. Et moi, ça fait comme 6 mois que je me suis installé sur la zone, et de s'installer ici, de vivre ici, et cet endroit, il devient chez toi. Avec cette perspective, tu vas te faire expulser et ce truc, il va être rayé de la carte, les 2000 hectares, là. Tu sais, ça fait vraiment prendre conscience hyper fort de comment, à un moment, on te déracine une population et on te l'emmène autre part de force comme ça, et comment ce truc, c'est un vrai élément du contrôle social, en fait. Parce que là on te gomme ton histoire, quoi. Enfin, on te gomme une zone et on vire tout. Moi, je pensais à ce truc, tu vois, s'il se construisait, ce machin, je viendrais dans l'aéroport et je serais au milieu de l'aérogare à me dire, mais où est-ce que j'habitais? Est-ce que c'est ça? Enfin, Ou là, tu sais, ça a perdu complètement tout son sens et tout, là, enfin, ou un truc, et je pense que Et aussi, cette zone-là, elle a cette histoire de déracinement et de migration, parce que c'est une histoire agricole, en fait, et que plein de gens, ils sont partis de force d'ici, en fait, enfin, ou de force ou de nécessité, parce que pour bouffer, il fallait aller bosser dans les usines à Saint-Nazaire, quoi, et c'était comme ça. Et tu sais, c'est cette histoire qui se poursuit, là, de déracinement, et c'est un vrai truc de contrôle, en fait, quand on t'a arraché et qu'on te balade à droite, à gauche, de force comme ça, en fait, t'as plus d'histoire, t'as plus de communauté, t'as plus de lien. Enfin, tu les as, ouais, évidemment, on continue à vivre, quoi, mais ça change vraiment un truc. Et je crois que ce monde, il avance fort avec cette dynamique-là, en fait. En tout cas, là, moi, d'habiter ici, d'un coup, pof, je comprends ça, quoi. Enfin, comme une réalité, ouais. Et pas comme un truc théorique que tu dis dans un bouquin, quoi. Ouais.
Et c'est vrai que dans les habitants qui vivent là déjà depuis belle lurette, depuis 15, 20 ans et voire plus, quoi, qu'on rencontre, qu'on connaît, avec qui on fait des choses au quotidien, quoi, eh ben, on remarque cette inquiétude, ce truc de savoir de pas savoir à quelle sauce tu vas être mangé demain, quoi. Parce que d'un coup, tu vas tout perdre, tu vas perdre ton jardin, ta maison, tes relations sociales que tu as tissées depuis X années, quoi. Et ça, c'est terrible pour beaucoup, quoi. Des fois, c'est enfoui, là, mais des fois, ça pète, là, dans des soirées, des discussions et tout ça. Et il y a des crises, quoi. Il y a vraiment un mal-être intérieur terrible, quoi, chez certaines personnes, quoi, qui sont vraiment ultra inquiètes, quoi. Et ça, c'est créer un aéroport est une chose, mais créer un désordre comme ça, une déflagration là, chez les gens, c'est encore plus terrible que de foutre du béton, quoi. Parce que là, ils sabotent tout un tas de relations humaines, et ça, c'est pas tolérable, et ça fait aussi partie de notre combat, quoi, de savoir que voilà, il y a de l'humain derrière, quoi. Et qu'il n'y a pas que du paysage, quoi. Il y a de l'humain, il y a des relations qui se jouent, qui se jouent.
Oui, enfin des paysages ou des abstractions administratives.
Voilà. Il n'y a pas que ça, quoi.
Ouais, enfin pour moi c'est vraiment une histoire en fait qui est rayée. C'est que moi j'arrive juste, ça fait juste un an en fait à peu près que je commence à traîner un petit peu dans le coin. Et en rien qu'un an, en seulement un an, à force de me promener et tout, enfin pour moi c'est déjà un lieu qui a une histoire, en fait. C'est que je sais, enfin à tel endroit, à tel carrefour de route, il y a le chien d'un ami qui s'est fait écraser à cet endroit-là. Je sais où il y a le meilleur buisson de mur où on peut ramasser le plus de murs.
C'est chez moi.
Quand on continue plus loin, bah il y a un champ dans lequel je me suis déjà fait courir après par une vache, machin, ça m'a marqué. Il y a des choses que je connais pas parce que je viens d'arriver, mais que je sens une histoire derrière en fait. À côté de l'endroit où j'habite en ce moment, il y a des restes d'une maison. Je sais qu'avant il y avait une maison qui était là, qu'il y a des gens qui ont vécu, qu'il y a des gens qui ont eu des tas d'histoires en fait ici. Qu'il y a des gens qui se connaissent, qui se rencontrent, des choses comme ça. Et moi je me rends compte en fait que ça fait qu'un an que je suis là, mais en fait, mais les gens qui sont là depuis 40 ans, et ben là où moi je vois une ruine de maison, eux ils voient un endroit qu'ils ont déjà vu sous forme de maison, dans lequel ils ont déjà rencontré les habitants. Et le fait que ça devient une ruine, ça fait une espèce d'évolution normale en fait. Il y a une histoire en fait, les lieux ils évoluent. Une fois t'as un arbre qui donne des cerises, et puis 20 ans après l'arbre il est mort et il donne plus de cerises, et c'est comme ça, quoi. C'est la vie. Mais le fait que tout s'arrête en même temps, ça dépasse en fait ce côté là enfin, si d'un seul coup il n'y a même plus de ruines, il n'y a même plus de traces de la moindre pierre de l'habitation qu'il y a là, mais qu'il y a un terminal d'aéroport, hein, qu'il y a un grand parking à côté, qu'il y a une grosse... Bah, c'est que si on revient, quelqu'un qui revient sur les lieux avec cette histoire un peu dans la tête, il n'y a plus aucune trace en fait. C'est qu'il n'y a plus rien qui distingue l'endroit où il y avait un buisson de mur que de l'endroit où il y avait une vieille ruine ou de l'endroit où il y avait autre chose. Et que même les routes, j'ai l'impression que les routes, ça reste un moyen de repère un peu, parce que d'habitude quand le reste change, au moins les routes ça fait un peu un point de repère en fait. Là il y a une route sur laquelle moi je marche tous les jours depuis quelques temps là, j'ai l'impression qu'elle peut pas disparaître du jour au lendemain. Et en fait pourtant si l'aéroport va construire, il y aura plus de buissons de mur, il y aura plus d'arbres, il y aura plus de ruines, il y aura plus de route non plus, il y aura plus rien, enfin si, il y aura autre chose,
ça, c'est que actuellement il y a des montées et des descentes. Certes, pas beaucoup parce qu'on est quand même un peu dans la plaine, mais de temps en temps quand même, il y a des variations de hauteur, et quand même les variations de niveau en fait, elles vont disparaître. Et que ça, c'est quand même quelque chose d'assez
moi c'est inimaginable, peut-être.
C'est, moi, pour moi, c'est ce qui est le plus inimaginable quand je me mets au bout de la ZAD, zone dégagée vers la Gaîté, là où on peut voir assez loin, et je me dis, mais là en fait, ils vont faire un truc plat, tout droit. J'y arrive pas, quoi. Déjà, je vois même pas comment on fait physiquement. Je comprends pas comment ils font pour faire un plat aussi long que ça, là. Non, j'en sais rien. Mais je sais pas, si déjà essayé de poncer un bout de bois plat, ne serait-ce que sur 2 mètres. Là, je comprends pas comment sur 700 hectares, ils vont réussir à faire un truc plat, quoi.
Et moi, je voulais rajouter un truc sur la mémoire des lieux, la mémoire des gens. par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure, et qu'on a une copine là qui a eu cette démarche, et je crois qu'il faut lui rendre hommage parce que c'était un super boulot qu'elle a fait, quoi. Et je pense qu'elle n'a pas fini, ça va continuer encore, quoi. Elle est partie avec son dictaphone dans les poches, et puis elle a été tapée aux portes des maisons, et elle a été voir les gens et leur demander voilà, est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre vie ici, ce que vous avez vécu par le passé, le présent, un peu aussi vos inquiétudes, vos espoirs, l'avenir, comment vous le voyez. Et ça, c'est un super travail de mémoire, parce que savoir que si un jour tout disparaît ici, au moins qu'on sache qu'il y a eu une vie ici, il y a eu des relations sociales, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des histoires vécues, et que si on peut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut pas effacer ça comme ça d'un coup de pelleteuse, quoi. Et que de garder cette mémoire, c'est un travail nécessaire, quoi, nécessaire de le faire aujourd'hui, quoi. Comme on doit garder aussi le mémoire des luttes passées pour nourrir les luttes présentes, quoi.
Ouais, on pourrait s'installer avec des grosses bottes en caoutchouc dans le terminal de l'aéroport avec des DVD à vendre. Je vais voir ce qui s'est passé ici, ça va être super sympa, quoi. Je sens comme quoi
les futures actions sont
des photos souvenirs du bocage.
C'est clair. Acheter à mon projet d'insertion.
Il faudrait être super organisé quand même, parce que la vente à l'arrache dans un aéroport, à mon avis, c'est pas gagné. Moi, je suis sur les branches un projet.
Sinon, là, pour finir un peu sur les prochains temps, quoi, toi, tu disais que pour l'instant, le conflit, il ne se sentait pas au quotidien. L'année dernière, il y a eu toute l'opposition aux forages qui ont donné lieu à un déploiement, à une occupation policière ou militaire de la zone, avec voilà, les hélicoptères, déploiement de bleus de partout et tout. Et là, quelles sont les prochaines étapes? Soit il y a ce que tu disais, les procès, les expulsions, ou sinon, vous savez si il y a de nouveau des forages prévus, comment...
En fait, pour l'instant, les forages qui ont été faits, c'est que les forages du barreau routier officiellement. Il n'y a pas eu de forage sur les pistes, quoi, ou officiellement, parce que semblerait-il, il y en a quand même quelques-uns qui... La machine a légèrement glissé, les géomètres n'avaient pas le compas dans l'œil ce jour-là.
Je nettoyais ma foreuse, le coup est parti.
C'est un peu comme ça. Mais en théorie, du coup, il n'y a que le barreau routier. Je crois que tous les forages ne sont pas encore finis, si je ne m'abuse. Et normalement, tout le reste de ce qui est forage et mise en place de l'aéroport, ça devrait être Vinci qui devrait les prendre en charge.
Ah, c'est à la charge du concessionnaire. Mmh.
Mmh. Du coup, ça, lui, on ne sait pas vraiment quand c'est qu'il va s'y mettre, quoi.
Mais on sait qu'en tout cas, dès qu'il y aura de nouveaux forages, en tout cas, dès qu'il y aura de nouveaux travaux qui ont un rapport direct avec l'aéroport, il y aura le même déploiement policier qu'on a vu les mois ou les années dernières, quoi. Et que c'est 150, 180 policiers, hélicoptères, ce que tu disais, quoi. Et avec aussi de possibles arrestations, parce qu'il y a déjà eu des arrestations et des personnes qui ont subi un procès et qui ont été condamnées pour s'être opposées au forage, quoi. Mmh. Donc ça va se renouveler forcément, quoi. Il y aura le même dispositif qui sera mis en place et tout est quadrillé, la population contrôlée, même des gens qui militent pas, qui sont pas dans les associations d'opposants, quoi, se font contrôler. J'ai eu le témoignage d'une personne qui était aux champignons et un jour de forage et qui passait juste par là, quoi, qui s'est fait contrôler. Et qui n'avait pas ses papiers, donc de suite elle était soupçonnée de faire partie d'opposants allant faire éventuellement un sabotage contre la foreuse, quoi. Enfin, on a ce type d'histoire, quoi.
Ouais, et sûrement les prochains travaux qui arriveront comme concrètement sur le terrain, parce que des travaux il y en a dans les bureaux en fait, c'est sur le barreau routier parce qu'ils vont le construire avant. Et je crois en ce moment ils sont à l'étape de faire le tracé hyper précisément sur leur carte. Après ça, ça doit se reporter sur le terrain. Ils n'ont pas encore toutes les terres, ceci dit. Enfin, oui, il y a encore pas mal de trucs administratifs et tout qui vont se dérouler, je pense.
En tout cas,
ouais, oui. Il y a des travaux qu'on a ratés quand même. Enfin, on n'y a pas forcément attaché une grande importance, mais il y a les bleds autour qui ont refait un peu leur voirie. Hein. Donc c'est l'entretien normal. En fait, finalement, ils refont leur route tous les ans. Mais ils en ont profité pour élargir un petit peu les routes. Hein. Et on pourrait penser que c'est en prévision des machines de chantier qui devront passer, des choses comme ça. Et là-dessus, on n'a pas vraiment réagi parce qu'on s'en est rendu compte quand c'était à moitié fini ou je sais pas quoi. Mais il y avait peut-être des choses de louches un peu là-dedans aussi, quoi.
En tout cas, dans les préparatifs de la desserte du barreau routier qui desservira l'aéroport, il y a des appels d'offres. Il y a une appel d'offres qui a été balancé dans Ouest France, le journal local. Qui fait appel donc à des sociétés de gardiennage pour qui voudront bien avoir le meilleur prix et pour surveiller les engins, en tout cas le barreau routier, les travaux du barreau routier. Donc je pense que dans les mois prochains on va connaître celui qui aura été élu, quelle société de gardiennage aura été élue et retenu en tout cas, et ça c'est déjà un processus qui est en marche, quoi. Voilà, on sait que ils sont quand même partants pour faire ce barreau routier, quoi. Sinon ils ne feraient pas d'appel d'offres.
Est-ce qu'on sait qui c'est qui construit le barreau routier?
Eh ben non, il y a des appels d'offres justement
aussi pour la construction du barreau routier. Ouais.
Et du coup l'appel à occupation continue. Il y a des gens, si des gens veulent venir s'installer sur la ZAD, c'est toujours possible.
C'est possible, hein. Faut trouver des terrains, des maisons.
Alors il y a beaucoup de gens qui veulent arriver sur la zone. Et là dernièrement on a eu une rencontre avec des gens de Reclaim the Fields et puis l'émanation bretonne de l'Ouest avec Ramène ta fourche. Et dans ces personnes-là, il y a des gens intéressés à venir s'installer, en tout cas avec un projet agricole et de culture vivrière ou un projet de ferme collective. Donc il y a des gens avec des projets qui ont envie de s'installer. Et ici, sur les plusieurs centaines d'hectares qui ont été rachetés depuis 30 ans par le Conseil Général, il y a déjà des terrains qui sont exploités par les paysans qui sont déjà en place, mais il y a des hectares de friches qui sont inexploités, inutilisés et qui seraient susceptibles de recevoir un projet agricole, quoi. Ou non, d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins de maisons qu'avant parce qu'elles sont occupées, mais il y a quand même cette possibilité-là de se réapproprier la terre et en défrichant des terrains qui seraient susceptibles de recevoir des projets, quoi.
En termes de la maison, c'est un peu juste.
Vaut mieux venir pour construire sa cabane ou avec son habitat.
Je crois qu'on a des difficultés quand même en vrai pour accueillir les gens, en fait. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas très structuré et pas très organisé. Et on s'était fait un peu des réflexions sur le fait justement qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus et puis peut-être faire venir des gens sur des invitations claires quand on aura des choses précises à proposer en fait, si on organise à un moment une semaine de débat ou une semaine de chantier ou une semaine d'action ou une semaine ou plus ou moins. Mais c'est vrai que là, quand même, on n'est pas très organisé pour pouvoir accueillir des gens, pour pouvoir leur présenter la lutte dans des bonnes conditions. Comme ça, ça ne veut pas dire que c'est pas possible que les gens viennent, hein, mais...
Pour des gens qui veulent venir s'installer ou même qui veulent passer voir la lutte comme ça, c'est possible, mais il faut faire avec la situation ici, et c'est une situation où tu peux pas ouvrir un pavillon avec piscine comme ça s'est fait en deux jours. Mais enfin, il n'y a pas tellement de maisons libres, enfin, il n'y a plus de maisons libres sur la ZAD, peut-être qu'il y en a encore dans le coin, mais il faut les trouver, enfin, dès qu'il appartiendrait au Conseil Général ou à la DGAC, enfin... On a peu les infos et tout ça, et si des gens veulent s'installer, ben, ça veut dire faire avec cette situation qu'il faut travailler à trouver encore des friches, à les ouvrir, enfin, à débroussailler, tout ça. Enfin, c'est pas vous arrivez, tac, et on vous offre, mais évidemment, comme dans plein de situations dans la vie. Bon, on peut se battre contre la ronce pour pouvoir vivre quelque part.
Mais ça a été notre cas ici, pour nous qui habitons en yourte. On a défriché un terrain qui était envahi par les ronces. Et donc c'est faisable collectivement. Voilà, on a eu un chantier collectif, on a défriché et on s'installe, quoi. Et donc c'est vrai que toute personne qui a envie de rejoindre cette lutte et de vouloir venir vivre un temps plus ou moins long ici, il y a cette possibilité. Il faut venir essayer de créer une rencontre et puis après collectivement il y a moyen de faire quelque chose. De toute façon c'est nécessaire. Il faut occuper le lieu, faut occuper toute la ZAD, faire voir qu'il y a une opposition réelle et ferme, là, et aussi autour de ça construire du réseau, quoi, bâtir du réseau. Entre nous et puis avec l'extérieur aussi, quoi. Et pour ça on a besoin de tout le monde, quoi. Sinon la lutte elle pourra pas se construire, quoi.
C'est vrai que je pense qu'il y a aussi des choses à faire à l'extérieur en fait de la ZAD. C'est que là par exemple le concessionnaire on le connaît maintenant, c'est Vinci. S'il y a des gens qui veulent aller leur dire bonjour de notre part, et ben tout de suite ça fait des... Enfin, il n'y a pas forcément que des choses qui peuvent se faire ici, en fait.
De notre part et de la part de bien d'autres, parce que entre toutes les autoroutes qui sont en train de se récupérer jusqu'en Russie, là, il y a des gens qui luttent contre la destruction d'une forêt. Et je pense que c'est Vinci, ouais.
Ben, ils ont des projets partout. C'est autant ils sont.
C'est ITER aussi.
C'est ça, ils sont très proches de vous avec ITER.
Les auditeurs locaux. Vous savez, ITER, ce truc-là, dont on parle quelquefois, qui construit sur une faille sismique.
Ils en ont pour 20 ans à le construire, 30 ans à le démonter, tout ça.
Là, je ne sais pas si vous avez... On fera le point, je ne sais pas, dans quelques temps, sinon.
Oui, je pense qu'on aura sûrement plein d'autres choses à dire, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses ici, quoi. Il y aura toujours de nouvelles.
Et je pense qu'à n'importe quel moment, ça peut se précipiter aussi et puis s'accélérer assez soudainement.
Ouais, on va penser à la radio.
Ouais.
Bah, un petit merci à Zinzine de nous laisser le petit temps d'antenne pour ça aussi.
De rien.
Ouais, tu te l'as dit.
Merci donc à Rodi, Sri, Lucie aussi, Alain et Lydie de Nantes.
Et merci pour finir, on est joignable à zad@rizup.net.
Radio Zinzine vous a présenté Back to the ZAD. À annoncer que le quatrième numéro de la revue trimestrielle Z, qui se trouve théoriquement en kiosque, revient sur la lutte contre le nouvel aéroport. Vous pouvez le commander sur le site web www.zit.fr.